7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Nos héros aujourd'hui, ce sont les supporters de foot et non pas les joueurs. Ils ne ratent aucun match de leur équipe. Ils achètent les maillots de foot pour leurs enfants. Ils font le buzz dans les stades ou sur la toile. Et puis parfois aussi pas mal d'agitation. Alors si vous vous sentez l'âme d'un supporter, un vrai, celui qui vit dans l'espérance et qui met aussi la pression sur son équipe, appelez-nous, racontez-nous pourquoi, comment vous êtes devenu supporter, comment sont organisés aussi peut-être les fan clubs dans votre pays et ce que vous apportez au foot en tant que supporter à l'extérieur du stade ou dans le stade, mais en tout cas à l'extérieur de la surface de jeu. Et ce que et pour bien sûr pour en discuter, je reçois dans le studio un sociologue du foot. Bonjour Eric Wittersheim.
Bonjour.
Je ne sais pas si l'étiquette d'ailleurs vous convient de sociologue du foot, parce que vous avez d'autres étiquettes, vous êtes anthropologue, mais en tout cas vous écrivez dans votre livre que les sociologues du sport sont méprisés par les autres sociologues et que le foot méprise les sociologues.
C'est souvent vrai, oui.
Supporter du PSG, ça c'est une enquête que vous avez entrepris pendant plusieurs années dans les tribunes populaires du Parc des Princes, des supporters qui ont beaucoup changé d'ailleurs ces dernières années, qui se sont longtemps trimballés une réputation sulfureuse, et vous nous raconterez un peu comment finalement on a un peu fait un grand ménage par rapport à cette réputation. Les voisins en tout cas, vous nous appelez tout de suite pour nous parler de votre passion et de votre vie de supporter au 33 1 84 22 71 71. Je vous redonne le numéro 33 1 84 22 71 71. Supporter de foot, un métier presque. Je vous lis des messages très nombreux sur les réseaux sociaux. Oumou, c'est une voisine à Dakar au Sénégal. Pour moi, supporter, c'est un devoir. Je dis ça parce que j'aime mon pays et l'équipe que je supporte représente mon pays. Vive les Lions de la Teranga. Voilà, un autre internaute qui est à Dakar aussi. Le foot est un sport pas comme les autres, à la fois collectif et individuel et surtout praticable par tous, qui nous unit malgré nos diversités. Être supporter, c'est comme tomber amoureux. On ne sait pas pourquoi. Vive les Lions de la Teranga. Vous êtes d'accord avec ça? C'est comme tomber amoureux et on ne peut pas l'expliquer. On ne va pas aller loin dans l'émission dans ces cas-là, si vraiment on ne peut pas expliquer.
On peut essayer d'expliquer, ou en tout cas d'en parler.
Mais souvent, les supporters font cette allusion, cette comparaison à l'amour.
L'amour, je ne sais pas, la fidélité en tout cas, oui. Ça a à voir avec l'amour.
Oui, la fidélité, malgré parfois les résultats décevants de l'équipe que l'on supporte. On en reparlera. Mokhtar, alors lui, était à Richartol, dans le nord du Sénégal. Et il nous dit que supporter une équipe, c'est une épreuve à temps plein. C'est la tachycardie garantie au bout de 90 minutes de match. Moi, j'aime les équipes joueuses comme Arsenal et le Sénégal. J'aime les Gunners et leur philosophie de jeu qui ressemble beaucoup à une symphonie du grand Mozart. Il va loin dans les comparaisons. Le foot est magique, nous dit Mokhtar, quand il est laissé aux artistes. Supporter Arsenal et le Sénégal, c'est l'émotion sur le piédestal et la fête avant le carnaval. Oui, ils sont inspirés.
Hein. Et c'est beau, c'est très beau.
Casillas, alors là évidemment on voit pourquoi il a pris le pseudo référence au football. Il est à Dakar aussi cet internaute. Je suis un fervent supporter du Sénégal, mon pays, mon sang, mais niveau club je suis un inconditionnel du Real Madrid que j'ai commencé à supporter quand j'avais 11 ans, quand on parlait de fidélité. Ce club représente tout pour moi, nous dit Casillas, que ce soit dans les bons et mauvais moments. J'ai passé de longues nuits à pleurer en silence les soirs d'échecs, tels que les éliminations répétées en Ligue des Champions, mais aussi des nuits magiques, comme en 2002, où Zidane nous a fait rêver. Casillas reste mon idole de toujours. Ces grandes crises de larmes solitaires après des matchs et des défaites, ça vous rappelle quelque chose?
Oui, je crois qu'il y a les crises de larmes, et puis il y a l'abattement qui peut suivre des défaites, hein, comme pour les gens en 82 quand la France a perdu, ou plus récemment en 2006 après la finale avec Zidane, justement à sa sortie un peu.
Là c'était un abattement collectif.
C'était un abattement collectif, mais qui est assez étonnant pour un match de foot.
Douleur qui pouvait se partager.
Ouais.
On va faire redescendre la pression avec le témoignage d'Andy à Port-au-Prince. Comme beaucoup d'Haïtiens, je suis un grand fan de foot, particulièrement l'AC Milan. Mais comme l'équipe ne fait pas grand-chose depuis quelques années, cela me force à être plus calme lorsque joue l'équipe. Voilà, on sent une pointe de regret, de nostalgie dans le témoignage d'Andy à Port-au-Prince en Haïti. Encore Pato qui est à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Être supporter, c'est se donner pour son équipe. C'est perdre perdre la voix en les soutenant, faire la fête après la victoire et garder l'espoir en cas de défaite. C'est conserver la foi, comme en ce moment avec mon équipe de cœur, l'Olympique de Marseille. Je sais qu'ils ont des problèmes en ce moment, mais ça ira mieux. Voilà, cet espoir est quand même assez beau. Justement, écoutez le témoignage de ce Marseillais inconditionnel de l'OM.
J'aime le sport, j'aime le football. Quand on supporte un club, c'est une histoire d'amour. C'est comme un couple. Vous aimez le club et le club essaye de vous le rendre à travers ses victoires. C'est vrai que je joue très peu de matchs de l'OM. J'aime ce club. Ouais, je suis comme un fou. J'attends le match avec impatience. Je suis là, je vais aller au stade. Il y a une ambiance de folie. Le stade entier vit le match, je vis le match. À la fin du match, je suis fatigué. J'ai l'impression que c'est moi qui ai couru sur le terrain. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a toute cette foule qui est là pour vivre en même temps ce même moment, qui attend que ça, un but. Lorsque l'équipe réussit à marquer, c'est un moment de libération. Vous avez cette explosion de joie et c'est juste magnifique.
Notre invité Eric Wittersheim est déjà en grande agitation physique dans le studio. Vous publiez une étude sur les supporters du PSG. Dans le fond, qu'est-ce qu'un supporter ? Quelle est la différence entre un supporter et un simple amateur de foot ?
Est-ce qu'il y a une différence profonde ? Je crois que le supporter, c'est quelqu'un qui ressent le match d'une manière particulière. Il y en a beaucoup de supporters par rapport à un spectateur. Un spectateur peut apprécier du beau jeu, de voir un match avec un certain détachement, disant bon, je vais voir des buts, je vais voir deux équipes attaquer, etc.
Ouais. Le lendemain, il n'y pense plus, quoi.
Le lendemain, il n'y pense plus. Puis le supporter, surtout, vit la victoire ou la défaite comme il le vit, il le ressent. Il y a une espèce d'attente. Je crois que c'est une des plus belles choses dans le foot, quand on suit le foot, quand on suit un match, c'est l'incertitude finalement. Et c'est une des rares choses sur lesquelles on peut espérer que ça marche, mais il y a vraiment une part d'incertitude très grande.
Les clubs de supporters en France sont relativement structurés, statut d'association, on paye une adhésion, etc. Il y a des activités qui sont organisées. C'est le cas dans les autres pays d'Europe et ailleurs.
Alors, en France, ça existe, hein, c'est encore assez important, malgré beaucoup de mesures qui ont été prises pour limiter justement la participation de ces clubs d'ultra, souvent, hein, bien que certains clubs de supporters soient des supporters qui se revendiquent tranquilles, etc. C'est le cas notamment dans une espèce de différence comme ça un petit peu basique qui a été établie entre les pays latins et les pays anglo-saxons. Beaucoup de pays ont une tradition très forte de supporterisme sans pour autant avoir des clubs structurés. Et beaucoup de supporters, c'est pour ça que ça c'est aussi une image, bon, qui est un peu facile, on essaie de se raccrocher à ce qui est visible, ce qui est nommé, etc. Mais beaucoup de supporters très fidèles ne veulent pas appartenir à un club, ne se revendiquent pas d'un club. Par contre, ont sans doute des attitudes, des valeurs, des principes communs dans la manière de supporter leur équipe.
Et les équipes où, les pays où les supporters sont le plus visibles, le plus, j'allais dire nuisibles aussi, mais ça dépend. Mais je veux dire les qui exercent l'emprise la plus forte aussi sur les équipes. Il y a des pays comme ça qui se détachent par rapport à d'autres.
Oui, je crois qu'il y a des pays où le statut du supporter dépasse celui et du spectateur et de l'éventuel adhérent d'une association. C'est des pays comme l'Espagne où, pour ce que j'en connais, les deux plus grands clubs espagnols, qui sont sans doute aussi parmi les 4-5 plus grands clubs du monde, Barcelone et Real Madrid, appartiennent aux supporters. C'est eux qui ont, par un système d'action, et c'est donc eux qui élisent leur président. Ouais. On n'est pas du tout dans le même cas ici, où le PSG, l'OM, Lyon, ces grands clubs sont achetés par des manias, hein, des chefs d'entreprise.
Donc le pouvoir du supporter peut aller très loin,
il peut aller très loin,
le cas de l'Espagne.
Y compris dans voter pour quelqu'un qui a un programme, après qu'il l'applique ou pas, mais s'il veut être réélu, il y a des chances qu'il essaie de l'appliquer, qui va être plutôt un programme de formation, un programme d'achat de stars, d'une certaine manière. Est-ce que ça change tout? Je ne suis pas certain, mais c'est certainement différent effectivement de clubs comme Paris ou d'autres grandes villes qui ont une attitude vis-à-vis des supporters qui est une attitude de défiance, hein, qui préfèrent d'abord avoir des spectateurs finalement que des supporters un peu trop acharnés, un peu trop visibles.
Ouais. Ou... Justement, les bon, hooligans, supporters, même maladie, dans les années 90, on s'est beaucoup inquiété.
Oui, on s'est beaucoup inquiété. Je crois que le phénomène du hooliganisme, il est aussi le reflet d'autres problèmes, hein. Les supporters ou les hooligans ou pas ne sont pas des gens qui sont supporters à plein temps, ils sont aussi autre chose dans la vie, des employés, des maris, des enfants, des gens de gauche, de droite. Il y a beaucoup de supporters de gauche, contrairement à une idée reçue aussi. Je crois que comme bien souvent finalement, on voit la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup de supporters peuvent être assimilés à des hooligans, alors que les propos défiants, les propos violents en apparence, ne sont pas du tout forcément suivis des faits. Je dirais même au contraire. Mmh. Hein. Je crois qu'il y a une grande culture libertaire chez les supporters, qui est parfois obscurcie ou masquée par l'idée qu'ils seraient tous appartenant à des groupuscules... fascistes ou autres, ce qui est vraiment une minorité des supporters.
Racistes, on a beaucoup raciste. Dit aussi que les supporters étaient racistes. Bon, c'est vrai qu'il y a régulièrement des faits divers.
Ouais. Hein, la question du racisme, c'est assez important, parce que notamment on a beaucoup d'auditeurs africains là. En France, en Europe, ça arrive aussi en Espagne, il y a des incidents racistes, soit qui viennent de supporters, soit qui viennent de joueurs eux-mêmes. Et alors, sans du tout minimiser ou l'importance et la gravité des faits, des propos racistes, le racisme est beaucoup utilisé comme une arme de provocation dans le football. Et bien souvent, on sait qu'entre joueurs, par exemple les incidents importants qu'il y a eu ces derniers temps, des joueurs qui ont été exclus, même suspendus longtemps, etc., il s'agit beaucoup de provocations qui ont marché.
Ce qui n'excuse pas l'attitude pour autant.
Voilà.
Ouais.
Qui ont marché, qui font péter les plombs, comme on dit, à un joueur, etc. Et c'est aussi beaucoup comme ça que le public utilise le racisme, je pense. Hein, parce que c'est quelque chose contre lequel, finalement, c'est des accusations un petit peu contre lequel on ne peut rien. Il n'y a pas de.
Il y a toujours eu des supporters. C'est aussi vieux que l'invention du foot à la fin du 19e siècle ou pas?
Oui, je crois que le phénomène des supporters, d'ailleurs, ça a été. Les meilleures recherches sur le sport, enfin, les principales recherches ont été menées par des chercheurs anglais, notamment par des historiens, et l'histoire sociale du foot anglais, parce qu'elle recoupe beaucoup la formation du capitalisme industriel moderne, des villes, de la classe ouvrière anglaise, etc. Et ça se recoupe beaucoup avec ça, et notamment la séparation du rugby et du football, parce que c'était le même jeu au départ, et le football comme quelque chose de plus prolétaire, plus ouvrier, a complètement été dans le sens d'une construction du supporter comme... quelqu'un d'urbain, un peu dangereux, violent, etc. Et d'ailleurs, j'étais étonné de retrouver un des supporters parler d'Arsenal en lisant récemment l'autobiographie du chanteur des Sex Pistols, un ancien punk. Il dit que lui-même est un grand supporter d'Arsenal et bien qu'il soit pas du tout dans cette culture prolétarienne, etc. Il l'a plutôt rejeté. Il disait, quand on était adolescent, on allait au stade, une bonne baston, ça faisait partie de notre vie, etc. Alors c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on n'a pas grandi dans cette culture-là, mais pour beaucoup de gens, ça fait partie de l'éducation, notamment masculine, des jeunes gens urbains.
Supporters, ça reste un phénomène quand même très masculin. D'ailleurs, je pense à lire vos commentaires, vous êtes quand même assez nombreux, les voisins, à vous exprimer, plus nombreux que les voisines, quoique, on va donner la parole en tout cas à certains d'entre vous tout à l'heure dans quelques instants. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour nous dire en quoi vous sentez l'âme d'un supporter. chez 7 milliards de voisins, on parle des supporters de foot aujourd'hui. Quel est leur, leur vrai pouvoir sur les équipes? Comment vibrent-ils je veux dire, au rythme des matchs? Vous nous le disiez, Eric Wittersheim, la différence peut-être entre un supporter et un amateur, un simple amateur de foot, c'est qu'il ressent le match de manière différente, plus forte. Voilà, il vit le match autrement. Bon, ça reste un peu difficile à percevoir. On donne la parole à des supporters aujourd'hui qui nous appellent. Charles est en ligne avec nous de Gao, dans le nord du Mali. Bonjour Charles.
Bonjour Emmanuel.
Charles, alors vous considérez comme un supporter pour votre équipe?
Oui, moi je suis un fanatique du football. Supporter une équipe pour moi, c'est comme je suis en pleine composition à la faculté.
Ah d'accord, c'est comme si vous étiez en période d'examen.
Voilà.
Oui, mais ça vous occupe autant que si vous révisiez vos examens?
Oui, bon, je regarde d'abord la disposition tactique des deux équipes. Je dis que je regarde la disposition tactique des deux équipes.
Oui, oui.
Avant de faire une analyse personnelle.
Oui.
Donc je regarde le match du début jusqu'à la fin, sans rater une petite occasion.
Mais
prends des notes.
Vous prenez des notes pendant le match?
Je prends des notes pendant le match.
Ouais, et à quoi vous servent ces notes?
Voilà, donc j'écoute aussi ce que les commentateurs disent.
Ouais.
Et je le compare aussi avec pour moi.
Et après, vous relisez vos notes après les matchs? Vous les conservez, ces notes?
Oui, j'ai un cahier qui est là spécialement pour le football.
Ah oui, d'accord. Vous avez oui, donc vous êtes
un cahier spécial pour le football.
On peut dire, Eric Wittersheim, que Charles est un vrai supporter?
Ah ben, plus que ça, c'est ouais. Un spécialiste. Mais je crois que ça montre que beaucoup de supporters sont des spécialistes. Hein. Et contrairement à l'idée qu'on pense, c'est que les supporters sont juste là pour voir leur équipe gagner.
C'est-à-dire largement aussi qualifiés que les journalistes spécialisés de foot.
Oui, et aussi très attentifs justement à la technique, à l'organisation du jeu, de l'équipe, etc. Et donc très soucieux de précision, de détails, hein, de mémoire aussi des matchs, des joueurs, des statistiques, etc. Ça va contre l'idée vraiment du supporter qui est uniquement régi par ses émotions, ses pulsions, etc.
Est-ce que vous êtes souvent dans des débats interminables avec d'autres amis, Charles, sur les performances de l'équipe du Mali ou d'autres équipes?
Oui, tout à fait. Chaque fois, j'arrive à parler avec des amis, on fait des débats. J'ai même comparé l'équipe de cette année du Mali avec l'équipe de celle qui a joué la CAN 2013. Donc j'ai dit que l'équipe que le Mali a cette année-là, c'est une équipe qui est solide, qui est capable d'aller jusqu'à la finale.
Ouais, vous y croyez? Oui, Charles. Oui, Charles. Non, vous êtes à l'antenne. Hein, c'est nous qui vous écoutons. Vous dites que donc voilà. Vous gardez encore tous les espoirs pour l'équipe du Mali.
Tout à fait, parce que c'est une équipe qui est solide, une équipe costaud qui est là à la CAN cette année.
Bon, en tout cas, on a retenu votre témoignage, Charles, avec un cahier spécial dédié à tous les matchs.
Que les chercheurs adoreraient consulter et discuter avec Charles.
Voilà, hein, exactement. Ouais. Parce que vous dites en tant que sociologue, quand vous avez travaillé, vous avez étudié le phénomène du PSG, vous étiez très gêné, vous n'arriviez pas à prendre de notes.
Oui.
D'abord parce que dans les tripes, souvent on est debout et tout, c'est pas très confortable. Et puis en plus, vous dites, sous peine d'insulte, flic balance journaliste.
Oui. Ben oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend des notes pendant un match dans une tribune, effectivement tout le monde est debout, alors qu'aujourd'hui c'est interdit d'être debout, c'est suspect, et il y a une grande paranoïa qui est pas totalement injustifiée, parce qu'il y a des indices, il y a des gens qui ont peur d'être fichés, d'être repérés. Et donc, effectivement, celui qui prend des notes était perçu comme très suspect.
Oui, alors là, à une époque, c'est vrai, où il y avait une grande suspicion, une grande surveillance sur la sécurité dans les stades, dans les années 90. On va revenir aussi, évidemment, aux supporters d'aujourd'hui. Vous restez avec nous, Eric Wittersheim. Qu'est-ce qu'être un supporter de foot, finalement, aujourd'hui? Les voisins et les voisines, vous avez la parole aussi au 33 1 84 22 71 71. C'est le moment de déclamer votre passion, mais aussi peut-être vos attentes vis-à-vis de l'équipe que vous supportez.
7 milliards de voisins on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous laissons la parole aux supporters de foot avec notre invité également pour dialoguer avec vous, Eric Wittersheim, anthropologue, vous êtes chercheur à l'EHESS. Vous avez travaillé tout particulièrement sur les supporters du PSG qui ont longtemps eu une réputation sulfureuse. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai ménage dans ce club de supporters, on en dira un mot. Une enquête donc dans les tribunes populaires du Parc des Princes. Mais globalement, qui sont les supporters finalement? Pourquoi sont-ils dédiés corps et âme à une équipe et parfois depuis des années, malgré aussi encore des résultats décevants? Là aussi, on entendait vos témoignages tout à l'heure sur le fil Facebook. C'est l'espérance qui fait que vous continuez à supporter. On avait le témoignage de Charles qui soutient l'équipe du Mali, qui ne désespère pas de voir le Mali en finale pour la CAN et qui nous racontait tenir un vrai cahier de notes à chaque match. Donc un vrai truc technique. Je lis le message de Kalilou sur Facebook parce qu'il y a aussi des messages assez macho. Je voudrais dire aux dames, nous dit Kalilou, d'oublier les feuilletons pendant cette CAN et de nous laisser les télécommandes. Voilà, pour les foyers qui seraient équipés d'une seule télévision, quelques petites scènes de ménage, je ne sais pas, en prévision. Ou encore Mohamed qui nous dit, supporter une équipe c'est comme de la drogue, j'aimerais bien arrêter mais je ne parviens pas. Ton équipe est une partie de toi-même, dès qu'elle perd vous passez une mauvaise journée. Ça va loin, hein, Eric Wittersheim?
Ça va très loin, alors ça va très loin dans la métaphore aussi. Il faut voir que le football engendre beaucoup de commentaires métaphoriques.
Il faut l'amour, pas forcément la drogue, la religion, on trouve de tout dans les métaphores.
Voilà, la croyance, le sacré, voilà, etc. Il voilà. Faut pas forcément tout prendre au premier degré.
En tout cas, direction tout de suite le Marcory, un café situé dans le 19e arrondissement à Paris. Deux grands écrans qui permettent évidemment de retransmettre les matchs de la CAN. Alice Milo a glissé son micro pendant le match ce jour-là. C'était Côte d'Ivoire-Guinée, c'était il y a quelques jours.
Mais là aujourd'hui, regardez, j'ai 4 personnes. Maintenant là, il y a ce manque de confiance en équipe nationale qui fait que il n'y a personne. Hein. Parce que d'habitude là, c'est sûr qu'il y a du monde, mais là, bon, ils sont un peu découragés.
Comment vous expliquez que justement il y ait moins d'Ivoiriens qui soutiennent leur équipe nationale aujourd'hui?
On a eu de grosses compétitions, on a toujours eu des échecs en fin de compte. Donc du coup, les gens ils veulent plus suivre. Ils ont peur d'avoir mal, on va dire, en guillemets. Mais moi, je suis toujours derrière l'équipe nationale en tout cas. C'est mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'aime, c'est un pays dans lequel j'ai grandi. Donc en 92, c'est vrai que j'étais encore un petit. Je crois que j'avais 7 ans, 8 ans à peu près.
C'est quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
J'ai vu cette ferveur-là, ça réunit tout le peuple ivoirien. J'étais petit, mais cette image-là, elle m'est gravée dans la tête. Tout était gratuit, les commerçants offraient tout à tout le monde. C'était la fête pendant des jours et des jours. L'école était fériée. C'était, franchement, ça m'a marqué. Pour moi, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire arrive jusqu'au bout à gagner la Coupe d'Afrique, ça va ruiner tout le monde. Enfin, c'est pour ça que je veux justement continuer à croire à cette équipe-là. Il y a eu une crise politique qui nous a divisés. Je pense que la réconciliation peut passer au niveau du sport aussi. Quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98, vous avez vu ce que ça fait. On a eu Blanc, Black, Beurre. Je suis sûr que c'est un facteur de réconciliation. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, les armes se sont tues pour suivre le match des éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était séparée en deux. Didier Drogba, qui est d'origine bété, hein, qui est de l'ouest de la Côte d'Ivoire, a demandé à la fédération ivoirienne que le match se passe à Boaké, c'est-à-dire l'autre partie de la Côte d'Ivoire qui était coupée en deux. Donc du coup, ça a été une fête. Nous, à Abidjan, nous en France, on a suivi avec intérêt. Parce que dans l'équipe nationale, il y a plusieurs bords. Il y a ceux du nord, il y a ceux du sud, il y a ceux de l'ouest, un peu partout de la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, qui sont divisés dans l'équipe nationale, pour pouvoir gagner, il faut se mettre ensemble. Si c'est divisé, on ne peut pas gagner, ça c'est sûr. S'ils ont réussi à se monter, ça c'est que nous, quelque part, on peut le faire.
En jeu. Oh là là. La prochaine fois, ça va rentrer. Yaya Touré, 4 fois de suite meilleur joueur africain. Il y a Serge Aurier qui joue aujourd'hui au PSG. Il y a Thioté qui joue à Newcastle. Il y a tous ces grands joueurs-là qui signent des contrats mais astronomiques dans leur club, qui sont multimillionnaires en euros, pour ne pas dire milliardaires en France CFA. Je ne veux pas les blâmer parce que je les aime quelque part. Mais bon, on a l'impression qu'ils s'en foutent un peu de tous ceux qui les suivent. Nous sommes aujourd'hui peut-être 23 millions d'Ivoiriens, mais ils s'en foutent un peu. J'ai reçu certains. Ils représentent le pays, donc ils ont des explications à me donner. Je leur posais des questions, j'ai dit, mais il y a eu une Coupe d'Afrique, on a joué, je crois, contre l'Algérie en demi-finale, si je ne me trompe pas. On était bien partis, mais à 10 minutes de la fin, on a encaissé 3 buts, je crois qu'on a perdu 3-2. Donc je leur posais la question, je dis, mais tu bois, tu fumes, comment tu fais pour attraper tout ça en équipe nationale, ou qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'Algérie, tout et tout. Ils m'ont dit, ah, mais écoute, on a fait la fête la veille. Je suis en colère contre ces joueurs-là. Je ne veux pas les blâmer, hein, mais il faut qu'ils se battent plus pour l'équipe nationale. Ils ne considèrent pas notre amour qu'on a pour ce maillot-là. Ils ne sont pas dans la même réalité que nous. C'est tous des millionnaires. Donc ils n'en ont rien à foutre.
C'est maintenant 33 1 84 22 71 71. Si vous sentez l'âme d'un supporter de foot en pleine canne, c'est le moment de nous appeler. On donne la parole à Ernest justement pour réagir au reportage d'Alice Milo sur les supporters de l'équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants. Bonjour Ernest.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes vous aussi en région parisienne. Est-ce que vous avez entendu le témoignage de ce supporter là enregistré au café le Marcory à Paris qui dit que bon, il est un peu il est déçu globalement de l'attitude des éléphants. Il y avait presque une analyse un peu moralisatrice hein sur les éléphants. Est-ce que vous-même vous permettez ce genre d'analyse ou vous êtes un supporter inconditionnel finalement?
Oui, bien sûr Emmanuel, bien sûr, parce que vous savez hein, ce que nous avons démis, effectivement, ce sont les couleurs nationales. Donc, quand on a entendu beaucoup de cette génération, et que bon, jusque-là, elle ne nous a rien ramené, c'est normal qu'il y ait la déception. Mais bon, pas abattu au point de renoncer aux couleurs nationales. Mais bon, vous savez, depuis 2006, on espère plus de 8 ans d'espérance. Bon, rien du tout, même pas un seul trophée, 2 finales. La Coupe d'Afrique, même pas un seul trophée, c'est normal qu'il y ait la déception. Donc oui. Moi je comprends ce compatriote.
Et vous comprenez aussi que du coup les supporters se fassent plus rares qu'autrefois devant les écrans, devant les matchs?
Oui, bien sûr, parce que vous savez, aujourd'hui chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un journal satirique dont je préfère terminer le nom pour éviter la publicité, mais qui disait que pour suivre un match des éléphants, mieux vaut aller en cardiologie. Voilà, vous partez en cardiologie, parce que là, au moins, le médecin vous demande, mais qu'est-ce que c'est pas si vous lui répondez, non, de toute façon, après la défaite, tu préfères être hospitalisé, parce que je sais qu'ils vont perdre.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, vous êtes nombreux à faire des allusions médicales, d'ailleurs, par rapport au foot et à ce que provoquent les matchs, d'autant plus quand il y a la défaite. Merci, Ernest. Eric Wittersheim, sur le pouvoir parfois moralisateur des supporters qui se permettent de d'aller au-delà d'ailleurs des conseils aux joueurs. Là, on l'entendait, ce supporter de l'équipe de Côte d'Ivoire dit, c'est pas normal, ils ont fait la fête la veille, ils jouent mal.
Il a aussi dit, je ne veux pas les blâmer. C'est important, il y a du respect pour ces joueurs, peut-être pour ce qu'ils ont accompli, pour arriver jusque-là, parce qu'ils savent, on sait tous d'où viennent la plupart des joueurs de football, hein, la plupart viennent de familles, de milieux sociaux en difficulté. Donc, je crois que ça témoigne de quelque chose, alors qui me rappelle étrangement des propos entendus chez les supporters parisiens, lus dans des dossiers, des entretiens. C'est que souvent les supporters se plaignent, en tout cas se rendent compte que les joueurs ne respectent pas leur maillot, mais surtout ne respectent pas l'amour des supporters pour le club. Et les supporters font beaucoup d'efforts pour le club en s'abonnant, en allant à des déplacements lointains.
C'est ça, des efforts financiers, hein, souvent.
Des efforts financiers énormes. Et on a l'impression d'être mal remercié, non pas qu'il faudrait les remercier directement, mais en tout cas remercié par les efforts que ferait ou un manque, par exemple, visible d'affectation des joueurs qui ne sont pas forcément affectés après une défaite autant que les supporters le sont.
Ouais. Et donc ça, c'est vécu difficilement, d'autant plus que les joueurs aujourd'hui ont des salaires évidemment qui n'ont rien à voir avec ceux des supporters, hein, des niveaux de vie bien
sûr,
différents. Oui. 33 1 84 22 71 71. On a un supporter d'Abidjan qui nous appelle. Bonjour Séraphin.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez la parole, Séraphin. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Oui, ben moi je suis Séraphin d'Europé. Je suis ancien président du comité communal des supporters de l'Africa Sport National à Daoukro et ce club emblématique de la Côte d'Ivoire. En fait, je voudrais qu'on fasse une nette démarcation entre supporters et spectateurs.
Oui.
Effectivement, les supporters que moi j'ai gérés, donc les supporters, c'est des gens fanatiques. Ils sont fous du sport ou du club qu'ils supportent. Mmh. Ils s'investissent corps et âme dans la vie du club, financièrement, spirituellement, moralement, etc. Et donc, à ce niveau-là, le supporter, il souffre atrocement de la défaite de son club. Et il est ivre de joie en cas de victoire. Tandis que le spectateur, lui, il vit le plaisir du moment. Il apprécie, n'est-ce pas, le jeu, d'où qu'il vienne, le beau jeu d'où qu'il vienne, même de l'adversaire.
Mais justement, alors vous, en tant qu'ancien président, est-ce que parfois vous aviez des difficultés à gérer ce club de supporters en Côte d'Ivoire?
Ben là où nous avons des difficultés, c'est que il y a la passion qui domine. La passion domine.
Oui, d'où l'objet de ma question. Comment faisiez-vous?
Pardon?
Comment faisiez-vous justement à quel type de difficultés vous étiez confronté? Comment vous faisiez pour en même temps, je veux dire, canaliser cette passion?
Oui, justement, il faut. C'est pourquoi il faut des gens qui ont la sagesse au devant de ces clubs de supporters. Parce qu'il faut savoir leur parler. En cas de défaite, il faut savoir trouver les mots justes pour les apaiser.
Ah.
Et vous voyez, ces supporters-là, ils ne sont pas naïfs. Ils font même des classements. Mieux, ils proposent même des classements qui sont effectivement de bons classements par rapport aux entraîneurs.
Ouais.
Quand vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, depuis 6 ans, nous souffrons. Les Ivoiriens souffrent.
Alors justement,
nous avons les meilleurs joueurs.
Ça m'intéresserait que vous nous disiez, vous, en tant qu'ancien président de club de supporters, comment on s'adresse à des supporters le lendemain d'une défaite ou le jour même de la défaite qui sont dans cette souffrance quasiment physique. Quels sont les mots pour les apaiser en tant que président de club?
Ben justement, il faut dire d'abord aux supporters que avant tout, un jeu, c'est un jeu reste un jeu. C'est vrai, même s'il y a derrière le jeu de moyens colossaux, financiers, etc. Mais il faut savoir perdre. Et que quand on supporte, on aime son club, il faut se dire qu'il y a d'autres clubs qui sont plus forts. Et que l'échec d'aujourd'hui nous conduit à réfléchir, à nous améliorer pour être vainqueurs demain. Et que le sport ne doit pas être le lieu où l'on doit aller pour mourir, mais où on doit vivre un certain plaisir.
Voilà. Bon, on a pris une leçon de sagesse avec vous.
Fait partie de la vie. Voilà.
Merci beaucoup. On a pris une leçon de sagesse avec vous, Séraphin. Eric Wittersheim, est-ce qu'on observe des phénomènes similaires? La difficulté aussi pour un président de club de canaliser cette passion, ces déceptions amères.
J'ai peu étudié les clubs de supporters organisés. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était justement ces supporters très investis mais qui veulent pas être dans des clubs de supporters pour justement être dans quelque chose qui soit plus partagé, plus universel. Mais la question est bonne là parce qu'elle nous montre que le club de supporters, par définition, c'est rassembler, organiser des gens très engagés dans cette cause, donc très fidèles, très investis moralement, comme il le dit, moralement, psychologiquement, physiquement, dans le soutien au club. Mais le président, les organisateurs se doivent, déjà parce qu'ils sont en contact avec le club, qu'ils n'ont pas envie que le club X ou Y de supporters cause des dégâts, etc., se doivent finalement d'avoir des mots apaisants, contrôler quelque part un petit peu leur troupe de supporters. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'organisation des supporters ressemble à beaucoup d'aspects. Enfin, ce qu'il a dit, à des moments, on aurait pu penser que c'était l'élection présidentielle.
Exactement.
Ce moment où on ne sait pas de quel côté ça va basculer. Et on se dit, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas très différent de la personne en face de moi? Elle va sauter de joie. Et moi, je vais être dans l'abattement, comme si vraiment le monde s'écroulait, etc.
33-1-84-22-71-71. Passion supporter. Vous avez la parole aujourd'hui en pleine canne. On donne la parole à Régis qui est à Lomé au Togo. Bonjour Régis, soyez le bienvenu.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
Moi, c'est les éperviers. Moi, c'est magique. Hein. Lorsque les éperviers du Togo ont match, il faut que je sois là forcément. Y a pas, rien ne peut me le remplacer. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis là, il faut que je sois là aussi au moment des hymnes nationaux. C'est ce moment-là qui est un peu magique pour moi, où tout un peu, tout crie, et c'est fort, la tension au comble, et tu sens que là, ça va être chaud, et vraiment, c'est très fort. On ne peut pas l'expliquer, et lorsque la défaite vient, vous rentrez le soir, oui. Vous ne mangez pas, vous ne dormez pas toute la nuit. Ouais. Tu te demandes c'est quoi, qu'est-ce que tu as là, on voit d'accord, mais alors ça, tu pas de réponse quoi.
C'est intéressant parce que vous parlez des chants, enfin là des hymnes nationaux en tant que supporter de l'équipe du Togo. Eric Wittersheim, les supporters du PSG pendant longtemps avaient des chants bien à eux. Hein. Ça a disparu, ça. Il y avait une vraie culture
alors,
du chant.
Ça n'a pas disparu.
Paris Saint-Germain.
Grâce, je dirais, à des moyens techniques qui permettent, quand on regarde les matchs à la télé, de penser qu'il y a une ambiance du feu de Dieu. Et quand on va au stade, par contre, il y a ce que beaucoup de supporters dénoncent comme une ambiance de cathédrale, c'est-à-dire quelque chose de froid.
Ah, et alors
ce qui s'est passé, c'est que...
Comment on explique la différence?
Plusieurs milliers de supporters historiques du PSG, des supporters du COP de Boulogne et de la tribune Auteuil.
Alors, faut peut-être préciser, COP de Boulogne, tribune Auteuil...
C'est les tribunes populaires, donc c'est les virages, hein, les supporters connaissent, c'est-à-dire c'est les tribunes qui sont derrière les buts, celles qui, dans tous les stades du monde, sont les tribunes populaires, celles où, pour les spectateurs normaux, on ne voit pas bien, mais celles où, justement, on est là pour supporter son équipe quand elle attaque.
Et c'est là que ça
chauffe. Et c'est là que ça chauffe, c'est là que ça crie, c'est là que ça chante. Et c'est là qu'on discute, qu'on compare avec un match de 1982, où je ne sais plus qui avait tiré sur le poteau à la dernière minute, où il y a ces spécialistes, hein, qui sont considérés souvent comme des masses incultes et dangereuses, mais qui sont les spécialistes. Et c'est vrai que... Je prends l'exemple du PSG, c'est pas vrai par exemple au Stade Vélodrome où je suis allé récemment, mais au PSG plusieurs milliers de supporters ont été écartés ou se sont d'eux-mêmes désolidarisés du club à cause de la politique qui a été menée envers les supporters, notamment les clubs de supporters.
C'était une politique de faire le ménage et d'apaiser
Il y avait peut-être 100 à 200 supporters qui vraiment faisaient du grabuge et pouvaient être dangereux et plusieurs milliers en ont fait les frais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on entend toujours les chants. Mais on distribue, ce qui fait beaucoup rire les supporters historiques, on distribue des feuilles sur lesquelles les chants sont écrits pour que les supporters, les spectateurs occasionnels qui viennent se prendre pour des vrais supporters puissent les chanter en suivant sur le bout de papier.
Alors, c'est quoi? C'est du faux supporterisme?
Ben, c'est un petit peu du folklore. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu factice et qui désole beaucoup les supporters historiques qui vont plus au stade.
Ce qui fait dire à certains que c'est la Disneylandisation, c'est ouais, ça, du PSG,
c'est
Paris Saint-Germain.
Et peut-être aussi ce qui va manquer au moment donné où, pour le petit pourcentage de force supplémentaire qui manque pour battre Chelsea ou Barcelone, c'est aussi d'avoir un public dingue derrière qui soutient son club, ce que le PSG semble ne plus tout à fait avoir aujourd'hui.
Bon, en tout cas, au téléphone, vos témoignages ne sont guère aseptisés. Ils sont vrais, ils sentent la passion des supporters. 33 84 22 71 71. On donne la parole à une voisine qui nous appelle de Nouakchott. Bonjour, Syrah.
Oui, bonjour, Emmanuel.
Syrah, vous êtes à Nouakchott, mais en fait, vous êtes sénégalaise, hein, c'est ça? Vous êtes une supporter de l'équipe du Sénégal.
Oui, en fait, du PSG aussi.
Ah, aussi du PSG, d'accord.
Ouais. Comme je le disais, c'est très difficile de supporter, surtout quand il s'agit de ton pays. Il y a la pression, le stress, l'incertitude, la peur, tout ça, quoi.
Oui, vous...
D'autant plus que dans la...
Oui.
Oui,
oui,
d'autant
allez-y.
Plus que dans la compétition, il n'y a pas une mauvaise équipe, hein. On n'y croyait plus parce qu'en début d'an, nous avions une bonne équipe et... la coupe nous a échappé, donc l'enjeu est de taille. C'est ça, quoi.
L'enjeu est de taille. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur les signes physiques hein, que vous avez au moment des matchs. D'ailleurs, je me suis demandé si finalement cette émission n'avait pas plutôt sa place chez Priorité Santé. Il y a vous, Syrah, vous nous avez dit hors antenne que vous avez la gorge nouée. Diallo à Conakry qui nous dit qui supporte le Sili National de Guinée qui nous dit si on perd, je ne parviens plus à manger, je tombe un peu malade. Parfois, en regardant le match, je tremble. Il m'arrive de ne pas regarder jusqu'à la fin parce que Je ne supporte pas les occasions ratées de mon équipe. Voilà, merci beaucoup Sierra. Peut-être un commentaire là-dessus sur cette maladie qui s'empare des supporters parfois.
Oui, ben là pour être honnête, c'est la limite de ce que peut étudier l'anthropologie et la sociologie. Mais là on laisse ça à d'autres disciplines, peut-être la psycho ou la médecine carrément. Effectivement, parce qu'on n'est pas très bon pour parler des émotions que moi-même en tant que supporter, je peux ressentir et difficilement expliquer en tant qu'anthropologue.
33-1-84-22-71-71. Allez, on donne la parole encore à un ou deux supporters.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Bonjour John, vous êtes en région parisienne et supporter?
Oui, je suis supporter. Premier de mon équipe et un ancien supporter de quelques équipes de mon pays. Je suis du Congo.
Mais actuellement, attendez, quel Congo là?
Le Congo Kinshasa, le Zaïre. Donc du coup, pour moi, le football, c'est l'opium du peuple, au même niveau que la religion. C'est parce que il y a plusieurs facteurs qui interviennent là-bas. Par exemple, lorsque j'ai grandi, j'ai vu plusieurs personnes, plusieurs politiciens récupèrent la cause du sport, du football. Et lorsqu'il y a une équipe, lorsque l'équipe nationale gagne, fait des exploits, c'est les politiciens qui récupèrent. Et lorsque l'équipe nationale perd, ça tourne contre eux. Par exemple, aujourd'hui, mon équipe, les Congos, joue au football. Ceux qui s'opposent au pouvoir en place souhaitent à ce que l'équipe nationale puisse perdre. Pourquoi? C'est parce que ça va amener la rage au peuple. Et si ça gagne, c'est les politiciens qui vont récupérer parce que c'est l'option même, ça va calmer le peuple. De deux côtés, j'ai
Du coup, vous, en tant que supporter, vous vous sentez instrumentalisé par le politique?
Par la politique, par le dirigeant en question. Le deuxième volet, c'est la créativité. Le moment où j'ai grandi, nous, on n'avait pas les possibilités, comme si les enfants d'Europe, d'avoir un maillot de Paris Saint-Germain ou quelque chose comme ça. Si on n'a pas de vêtements qui sont conformes à notre équipe, on achetait de sacs en plastique rayés qui avaient les couleurs de nos équipes. Vous allez voir le jeune, pour deux raisons. La première raison, c'est raison de sécurité. Au cas où, de l'autre côté, il y a la bagarre et on va déchirer le plastique et c'est passé. Et le deuxième moment au moment de se montrer, vous allez voir tous les jeunes en cours de route en train d'acheter les sacs en plastique et on a créé les mains, vous comprenez comment la forme du plastique, les deux mains on le fait entrer dans les deux bras et par rapport au coup en bas, on le porte.
Oui, c'est un maillot bricolé, s'il est déchiré, au moins on n'a pas perdu trop d'argent, c'est ça.
Ouais, exactement. Donc c'était le dimanche, les gens qui vendaient les plastiques, qui ça dépendra de moi, des fois ça revient. Oui. Vert noir, vert blanc, rouge vert, noir blanc, et le producteur de plastique produisait plus. Ça dépend du match.
Je pense que
joué que le dimanche chez nous.
Votre récit rappelle sûrement des bons souvenirs à d'autres voisins qui sont en RDC. Aujourd'hui, on le voit, il y a quand même beaucoup de jeunes, y compris sur le continent subsaharien, qui ont des vrais maillots, les vrais t-shirts qu'on trouve un petit peu partout. Merci beaucoup pour ce témoignage, John. La guerre entre supporters, où on en est aujourd'hui? En général.
Alors. Il y a des affrontements entre supporters, beaucoup d'affrontements verbaux, de défiance. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'ai été interviewé par une émission de radio sur Internet qui s'appelle Liberté pour les auditeurs, fondée par le mouvement des supporters, un mouvement rassembleur de supporters qui s'appelle Liberté pour les ultras. Et bien que cette émission rassemble des supporters de toutes équipes, justement pour s'unir et défendre leurs droits, ça y allait en commentaire sur les Marseillais, les Parisiens, etc. Parce que ça fait partie de leur façon de supporter les équipes. Mais par rapport au témoignage de notre dernier auditeur, que j'ai beaucoup apprécié, effectivement, d'un point de vue politique, on sait que le football, comme le sport en général, a beaucoup été utilisé quand même pour unifier les populations. Il parle d'opium du peuple et parfois c'est justifié. Il y a aussi, alors je le disais, cette culture libertaire chez les supporters, il y a aussi beaucoup de mouvements sociaux, par exemple, qui se sont appuyés sur les supporters de foot, et les plus récents, c'était en Égypte, avec les supporters, en Turquie, dans les manifestations il y a 2-3 ans, là, de grandes manifestations qu'il y avait, les clubs de supporters, justement parce qu'ils sont organisés, et certains qui sont aussi assez fascinés par les mouvements, les émeutes urbaines, etc., ont soutenu activement ces mouvements. Donc c'est pas toujours dans un sens. Je crois que le football est plus un reflet de la société, plus qu'il n'en est une espèce de tâche ou d'excroissance un peu monstrueuse, et que ça peut aller dans un sens ou dans un autre. À la fois la violence qui peut déborder parfois et entraîner des événements dramatiques, mais aussi ce qui se passe tous les dimanches. Enfin, quand on a des enfants qui font du foot dans un club, on voit tous les bénévoles, tous les volontaires qui rassemblent des gens de toutes les communautés. Il y a il y a des gens qui sont des policiers qui bénévoles le week-end qui entraînent des
gamins. On continue donc d'avoir quand même une vraie mixité dans les clubs de supporters, même si d'ailleurs sur le PSG vous dites qu'ils ne se côtoient pas forcément d'ailleurs.
Pas dans tous, parce que le PSG, certains supporters traînaient une réputation d'extrême droite et cela évidemment ne tolérait pas trop de mixité. Mais moi j'ai assisté notamment avec le groupe de supporters que j'ai suivi à des scènes plutôt surprenantes où ces supporters empêchaient des bagarres ou empêchaient certains supporters du PSG d'ennuyer des jeunes maghrébins ou des jeunes antillais, quoi.
On devient supporter de père en fils.
Alors oui, je crois que ça se transmet. C'est important pour les supporters, voilà. C'est important. Et c'est une des choses qu'ils disputent aujourd'hui, c'est le fait qu'ils puissent continuer à aller au stade avec leurs enfants sans être répartis aux quatre coins des tribunes.
Ça fait des souvenirs ensuite. C'était le cas de John. Merci en tout cas à vous, Eric Wittersheim, anthropologue. Vous avez publié Supporters du PSG, une enquête dans les tribunes populaires du Parc des Princes aux éditions Le Bord de l'Eau. Merci à vous, les voisins et les voisines, pour vos témoignages et votre ferveur dans les stade. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Jonas Malé-Solar, Sandrine Straram, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, comment parler des conflits et du terrorisme aux enfants? Appelez-nous si vous vous sentez concerné par le sujet. Je vous redonne le numéro de téléphone de notre standard. Vous pouvez appeler à tout moment 33 1 84 22 71 71. À demain, les voisins.
Merci.